Chapitre 17. Je quitte Claudia. Je me souviens de Jenny. Une nuit dans le hangar. La porte. La ville hantée. 1. Radar s'assit dans le panier doublé de molletons sans trop se faire prier, mais elle fut prise d'une quinte de toux qui ne me plut pas du tout. Claudia et moi, on attendit que la toux se calme et cesse. Claudia utilisa un coin de sa robe pour ôter le pus dans les yeux et sur la truffe de la chienne. Elle me regarda avec gravité.
« Ne perds pas de temps si tu veux la sauver, Charlie !»
Je hochai la tête. Elle m'étreignit, puis me repoussa en me tenant par les épaules.
« Sois prudent! Je serais triste de te voir revenir sans elle, mais plus triste encore de ne pas te revoir du tout. Tu as bien toutes les instructions que je t'ai données ?»
Je dressai les pouces et tapotai ma poche arrière.
« Ne te sers pas de ton arme en ville, ni même aux abords !»
Je posai mon index sur mes lèvres. « Chut !» Elle ébouriffa mes cheveux et sourit.
« Porte-toi bien, jeune prince, Charlie !»
Je grimpai sur la selle du tricycle. Comparé à mon vélo, j'avais l'impression d'être assis en haut d'une tour. Je dus appuyer fort sur les pédales pour démarrer, mais une fois lancé, la machine filait sans peine. Je me retournai pour adresser un signe de la main à Claudia, qui fit de même, et m'envoya un baiser. Je m'arrêtai un très court instant en atteignant le tramway abandonné. Une des roues s'était détachée et il penchait d'un côté. Je remarquai d'anciennes griffures sur la paroi en bois la plus proche de moi et des éclaboussures de sang séché. Les loups, pensais-je. Je ne regardais pas à l'intérieur. 2. Le terrain était plat et j'avançais à un bon rythme. Je pensais atteindre le hangar dont m'avait parlé Claudia bien avant la tombée de la nuit. Les nuages s'étaient rassemblés de nouveau au-dessus du paysage désertique, sans ombre. Les monarques avaient rejoint leur repère diurne. Les verrèges regagnaient leur perchoir à la périphérie de la ville. Je supposais que les loups restaient à l'écart des maisons et des constructions à la nuit tombée, mais je n'étais pas prêt à parier ma vie, ni celle de Radar. En milieu de matinée, je passais devant les premiers cottages. Un peu plus loin, là où une voie secondaire coupait la route du royaume, le sol en terre battue céda la place à un revêtement de pierres concassées. À choisir, je préférais la terre battue, plus lisse. Je devais éviter des nids de poules. Le tricycle était parfaitement stable tant que je pédalais en ligne droite. Zigzaguer s'avérait plus délicat. Plusieurs fois, en faisant un écart, je sentis une des roues arrière décoller du sol. Je pus compenser en me penchant du même côté comme je le faisais sur mon vélo, mais j'étais quasiment certain qu'un virage un peu trop serré ferait basculer cet engin. Et si, personnellement, je pouvais supporter une chute, j'avais peur pour Radar. Les maisons étaient vides, les fenêtres des yeux aveugles. Des corbeaux, pas gigantesques mais assez gros quand même, se pavanaient dans les jardins abandonnés et picoraient des graines ou tout ce qui brillait. Il restait quelques fleurs, blafardes et comme incongrues dans ce décor. Des plantes grimpantes, semblables à des doigts avides, escaladaient les murs des cottages affaissés. Je passais devant une maison de guingois dont le calcaire effrité apparaissait à travers les vestiges de plâtre. Une porte battante entr'ouverte donnait à l'entrée l'aspect d'une bouche morte. Sur le linteau, une enseigne représentait une chope à ce point décolorée que la bière qu'elle contenait ressemblait à de la pisse. Au-dessus de la chope, en lettres bordeaux, à moitié effacées elles aussi et éparses, on pouvait lire « Attention ». À côté se trouvait ce qui avait sans doute été un commerce quelconque, devant lequel s'étendait un tapis de verre brisé. Je pris soin de faire un écart pour protéger les pneus du tricycle. Un peu plus loin, des constructions se dressaient de part et d'autre de la route, maintenant presque collées les unes aux autres, seulement séparées par d'étroits passages sombres. On traversa une puanteur si forte que je fus pris de haut le cœur et dut retenir ma respiration. Radar n'aimait pas cette odeur, elle non plus. Elle émit un gémissement et s'agita dans son panier, faisant chanceler légèrement le tricycle. J'avais envisagé de m'arrêter pour grignoter, mais cette pestilence me fit changer d'avis. Ce n'était pas une odeur de chair putréfiée, mais de quelque chose qui avait pourri. Un herbage nauséabond et sauvage, pensais-je. Et cette phrase fit ressurgir le souvenir de Jenny Schuster. J'étais assis avec elle sous un arbre, on était adossé au tronc dans l'ombre mouchetée. Elle portait le vieux gilet déchiré qui était son emblème et tenait un livre de poche sur ses genoux, le meilleur de H.P. Lovecraft. Elle me lisait un poème intitulé « Les champignons de Yogot ». Je me souvenais encore du début. C'était un endroit sombre et poussiéreux, à moitié enfoui dans des entrelacs d'anciennes ruelles, près des quais. Et soudain, je compris pourquoi cet endroit me filait les jetons. J'étais encore loin de Lillimar, que le jeune réfugié avait appelé la ville hantée, mais déjà les choses avaient quelque chose d'anormal, d'une manière dont je n'aurais pas eu conscience sans Jenny, qui m'avait fait découvrir Lovecraft quand on était en sixième, trop jeune et trop impressionnable pour de telles horreurs. Jenny et moi, on était devenus amis de lecture durant la dernière année d'alcoolisme et la première année d'abstinence de mon père. C'était une amie, et pas une petite amie, ce qui n'a absolument rien à voir. « Je ne comprendrai jamais pourquoi tu traînes avec elle », me dit un jour Bertie. Je pense qu'il était jaloux, mais perplexe également. « Tu lui roules des pelles? Tu lui lèches le visage? Vous échangez vos salives ?»« Non. » Et je le lui avouais, ce n'était pas ça qui m'intéressait chez elle. Avec un petit sourire en coin, Bertie rétorqua « Il y a d'autres choses d'intéressant ?» J'aurais pu lui expliquer, mais ça l'aurait rendu encore plus perplexe. Certes, Jenny ne possédait pas ce que Burnman aurait appelé « le genre de corps qu'on a envie d'explorer ». À 11 ou 12 ans, la plupart des filles commencent à avoir des formes. Jenny, elle, était une planche à pain filiforme. Elle avait un visage maigre, des cheveux châtains clairs toujours emmêlés et une démarche de cigogne. Les autres filles se moquaient d'elle, évidemment. Elle ne serait jamais cheerleader, ni reine du lycée, ni vedette de la pièce de fin d'année. Et si elle rêvait de toutes ces choses, si elle quêtait l'approbation des filles sophistiquées qui se maquillaient, elle ne le montra jamais. Je pense qu'elle n'avait jamais ressenti la pression de ses pairs. Elle ne s'habillait pas en gothique, elle portait des pulls sous ce fameux gilet super cool et venait au lycée avec une lunchbox Han Solo, mais elle avait une mentalité de gothique. Elle vénérait un groupe punk baptisé les Dead Kennedys. Elle pouvait citer des dialogues de Taxi Driver et elle raffolait des histoires et des poèmes de H.P. Lovecraft. Jenny, H.P.L. et moi, on s'était rencontrés vers la fin de ma période sombre, quand je faisais encore des conneries avec Bertie Bird. Un jour, en cours d'anglais, la discussion tourna autour des œuvres de R.L. Stein. J'avais lu un de ses livres, « Can you keep a secret ?» et trouvais ça complètement crétin. Je le dis au prof et ajoutais que je préférais lire quelque chose qui faisait vraiment flipper. Jenny me rattrapa après le cours. « Hé, Reed, tu n'as pas peur des mots compliqués ?»« Non, lui dis-je. Quand je ne comprenais pas un mot dans une histoire, je cherchais la définition sur mon téléphone. » Cette réponse sembla lui plaire. « Alors, lis ça. » Elle me tendit un vieux bouquin de poche rafistolé avec du scotch. « Tu me diras si ça te fait flipper, parce que moi, ça m'a foutu une sacrée trouille. » Ce livre, c'était « L'appel de Cthulhu ». Et les histoires qu'il y avait dedans me flanquèrent la frousse, en effet, surtout celle intitulée « Les rats dans les murs ». Il y avait également un tas de mots compliqués à chercher, comme « enténébré » et « pestilentiel », qui décrivaient parfaitement ce que je sentais près de ce bar abandonné. Jenny et moi, on noua des liens autour de l'horreur, sans doute parce qu'on était les seuls élèves de sixième disposés à s'aventurer, avec délice, dans les fourrés de la prose de Lovecraft. Pendant plus d'un an, jusqu'à ce que les parents de Jenny se séparent et qu'elle parte vivre à Des Moines avec sa mère, on avait lu des histoires et des poèmes à voix haute. On était aussi allés voir des films tirés des œuvres de Lovecraft, mais ils étaient nuls. Aucun ne parvenait à saisir la force de l'imagination de ce type, sa putain de noirceur. En pédalant vers la cité fortifiée de Lillimar, je me rendis compte que cette périphérie silencieuse ressemblait beaucoup trop à Arkham ou à Dunwich, les villes des contes macabres de H.P.L. Dans ce contexte, et celui d'autres récits de terreur mystique, on était passé ensuite à Clark Ashton Smith, à Henry Kuttner et à August Derles, je comprenais mieux ce qu'il y avait d'effrayant et d'étrangement démoralisant dans ces rues et ces maisons vides. Pour utiliser un des mots préférés de Lovecraft, elles étaient fantasmagoriques. Un pont de pierre nous fit franchir un canal asséché. D'énormes rats rôdaient parmi des détritus si anciens qu'il était impossible de les identifier. Les berges du canal étaient maculées d'une sorte de merde noirâtre que Lovecraft aurait certainement qualifiée d'excrémenteuse. Et la puanteur qui s'échappait du lit de boue craquelé, il lui aurait attribué l'adjectif « méphitique ». Ces mots me revenaient, ressuscités par le lieu. Passé le canal, les constructions étaient encore plus proches les unes des autres. Elles n'étaient plus séparées par des allées ou des passages, mais par des boyaux dans lesquels devait se faufiler celui qui voulait passer, et je n'osais imaginer ce qui pouvait s'y cacher, guettant l'imprudent. Ces constructions vides surplombaient la chaussée, comme si elles voulaient se jeter sur le tricycle, et masquaient le ciel blanc à l'exception d'une bande déchiquetée. Je me sentais observé, non pas depuis ces fenêtres noires sans vitres, mais par elles, ce qui était encore pire. Une chose effroyable s'était produite ici, j'en étais sûr. Une chose monstrueuse, et oui, fantasmagorique. La source du gris se trouvait peut-être droit devant, en ville, mais ici, dans ses abords déserts, on sentait déjà toute sa puissance. Outre l'impression d'être observé, j'avais cette sensation vibrante d'être suivi. Plusieurs fois, je tournais vivement la tête pour tenter de surprendre quelqu'un ou quelque chose, un être terrible, dans notre sillage. Mais je ne vis que des corbeaux et parfois un rat qui regagnait sans doute sa tanière ou sa colonie dans les zones d'ombre de ce canal asséché. Radar partageait ce malaise. Elle grogna à plusieurs reprises et à un moment donné, lorsque je me retournais, je la vis dressée dans son panier, regardant dans la direction d'où on venait. « Il n'y a rien, » me dis-je. « Ces rues étroites et ces maisons écroulées sont désertes. Tu as la pétoche, voilà tout, et Radar aussi. » On atteignit un autre pont, au-dessus d'un autre canal asséché. Sur un des piliers, quelque chose me remonta le moral. Les initiales AB, pas encore entièrement recouvertes par une mousse jaunâtre à vomir. Les maisons collées les unes aux autres m'avaient fait perdre de vue le mur d'enceinte de Lilimar pendant une heure ou deux, mais en arrivant sur le pont, je le vis réapparaître, très nettement, lisse et gris, haut d'au moins 15 mètres. Au centre se découpait une gigantesque porte, quadrillée d'épais renforts qui semblait taillée dans du verre vert opaque. Si j'apercevais aussi nettement le mur et la porte, c'était parce que la plupart des constructions entre le pont et la ville avaient été réduites en ruines par ce qui ressemblait à un bombardement, ou une sorte de cataclysme. Quelques cheminées calcinées se dressaient encore, telles des doigts pointés vers le ciel, et une poignée de constructions avait été épargnée. Parmi elles, une église, peut-être, et un bâtiment tout en longueur, aux murs en bois et aux toits en tôle. Devant se trouvait un wagon rouge, sans roues, à moitié englouti par les herbes hautes et pâles. J'avais entendu sonner les deux cloches qui annonçaient midi, l'heure de grailler pour Anna, moins de 2 heures auparavant, ce qui voulait dire que j'avais roulé plus vite que ne l'avait prévu Claudia. Je pouvais profiter encore pleinement de la lumière du jour, mais je n'avais nullement l'intention d'approcher de la porte ce jour-là. Je devais me reposer et remettre de l'ordre dans mes pensées, si cela était possible. « Je crois qu'on y est », annonçai-je à Radar. « C'est pas le Holiday Inn, mais ça fera l'affaire. » Je passais devant le wagon abandonné jusqu'au hangar. Il y avait une porte enroulable qui avait sans doute été d'un rouge joyeux et était devenue d'un rose hideux. Et à côté, une porte plus petite, de taille humaine. Les initiales AB étaient gravées dans la peinture. Elles me firent chaud au cœur, comme celles aperçues sur le pont. Mais j'avais une autre raison de me sentir mieux. Cette impression de danger rampant avait disparu. Peut-être parce qu'il n'y avait plus de bâtiments autour de moi et que je voyais le ciel de nouveau, mais pas seulement. Ce parfum de maléfice ancien, aurait peut-être dit Lovecraft, s'était dissipé. Plus tard, bien après qu'eurent retenti les trois cloches du soir, je découvris pourquoi. 3. La petite porte refusa de s'ouvrir jusqu'à ce que je donne un coup d'épaule dedans. Et alors, elle céda si brutalement que je faillis basculer à l'intérieur. Radar aboya dans son panier. Le hangar était plongé dans la pénombre et sentait le renfermer. Rien de méphitique ou de pestilentiel. Deux autres wagons, peints en rouge et bleu, occupaient une place importante. Sans doute étaient-ils entreposés ici depuis des années, à l'abri des éléments, et les couleurs avaient conservé leur fraîcheur, ce qui leur donnait un air presque enjoué. Des perches installées sur le toit laissaient supposer qu'à une époque, ces wagons étaient reliés à des câbles en hauteur qui fournissaient le courant. Dans ce cas, les câbles avaient disparu depuis longtemps. Je n'en avais vu aucun au cours de mon périple. À l'avant d'un des deux wagons, en caractères anciens, on pouvait lire l'inscription « Front de mer » et sur le second « Lilimar ». Un peu plus loin, il y avait des empilements de roues cerclées de fer, dotées d'épais rayons en bois et des caisses contenant des outils rouillés. J'aperçus également un alignement de lampes en forme de torpille sur une table collée contre le mur le plus éloigné. Radar aboya de nouveau. J'allais l'extraire du panier. Elle tituba un instant lorsque je la posai sur le sol et boitilla jusqu'à la porte. Après avoir reniflé l'intérieur du hangar, elle y entra sans la moindre hésitation. J'essayais de soulever la grande porte à enroulage, celle qui avait dû emprunter les wagons. Elle refusa de bouger. Je laissai la petite porte ouverte pour avoir de la lumière et examinai les lampes. La nuit promettait d'être longue et obscure pour Prince Sarli et sa fidèle complice Radar, car le pétrole des réservoirs s'était évaporé depuis des lustres. En outre, le tricycle de Claudia devrait dormir dehors, car il était trop large pour passer par la porte. Les rayons en bois des roues des wagons étaient secs et fendillés. Je savais que je pourrais obtenir de quoi faire un feu, et j'avais emporté le zippo avec lequel mon père allumait sa pipe, mais pas question de faire un feu à l'intérieur. Il était trop facile d'imaginer des étincelles tombant sur les vieux wagons qui s'enflammeraient. On n'aurait d'autre choix alors que de trouver refuge dans le bâtiment qui évoquait une église et semblait branlant. Je sortis deux boîtes de sardines et un peu de la viande que m'avait donnée Dora. Je mangeai en buvant un coca. Radar refusa la viande, prit une sardine et la recracha sur le sol poussiéreux. Elle avait bien aimé les biscuits au sucre roux de Dora, alors j'essayai de lui en donner un. Elle le renifla, puis détourna la tête. Même refus avec la viande séchée. Je caressai sa joue. « Que vais-je faire de toi, fifille ?»« Te requinquer, si je le peux. » Je retournai à la porte pour contempler encore une fois le mur d'enceinte, et j'eus soudain une inspiration. Je revins sur mes pas et fouillai dans mon sac à dos jusqu'à ce que je trouve les derniers sablés aux noix de pécan, dans un sachet en plastique, sous mon iPhone désormais inutile. J'en proposai un à Radar. Elle le renifla prudemment, le prit dans sa gueule et le mangea, comme les trois suivants, avant de s'éloigner. C'était mieux que rien.